Je te remercie pour le temps qu'on a eu ce matin dans la louange. Merci, Seigneur, pour ta présence qui est là au milieu de nous. Merci de remplir nos cœurs de ta joie et de ta paix. Merci de l'amour fraternel qui est là. Bénis chaque personne qui sont ici. Parle à nos cœurs, Seigneur, ce matin, par ta parole. On va apprendre à te connaître. On va apprendre à connaître tes enseignements. Puis donne-nous de les comprendre, puis aussi de les garder dans notre esprit pour être capable de les partager aux autres. Je remets ce temps-là entre tes mains dans le nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On a commencé une petite série d'études de 7 messages. Puis on est rendu au 3e. Le premier, là, le message, s'il y en a qui s'en rappellent, c'est que notre foi est basée sur 7 piliers. C'est 7 choses qu'il faut comprendre si on veut vraiment rentrer dans la vie éternelle. La première, c'est de comprendre que Dieu existe, puis que Dieu nous aime, puis que Dieu a un plan pour notre vie. Est-ce que vous le savez, ça, que Dieu vous aime, puis que Dieu a un plan pour votre vie?
Il est en train de prêcher.
Le deuxième point qu'on a vu la semaine passée, malgré le fait que Dieu nous aime et que Dieu veut nous sauver, faut quand même comprendre que l'humanité en entier sont pris dans le péché, puis ils peuvent pas rentrer dans la vie éternelle. Ils peuvent pas obtenir les cadeaux que les promesses de Dieu, pas les cadeaux on peut toujours en obtenir, mais on est privé de la gloire de Dieu à cause de nos péchés puis des conséquences du péché. Puis il fallait que Dieu fasse quelque chose pour régler cela. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, la troisième vérité qu'on a besoin de comprendre si on veut être sauvé, c'est que Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. C'est ça qui est le titre du message. On a vu la semaine passée que la gravité du péché, on a vu que l'ensemble de la planète naît dans le péché puis qui pratique le péché. L'ensemble des humains n'a pas un qui a réussi à mettre en pratique toute la volonté de Dieu. Dans les humains, je parle. Ça prenait quelqu'un qui vient d'ailleurs pour régler cette dette-là, parce qu'on est tout le monde, moi, comme chacun de vous, des fois on parle l'humanité, mais plus proche que l'humanité, nous sommes les humains qui sommes privés de la gloire de Dieu. Par défaut, on est tous pécheurs. Puis ça, même si vous n'auriez fait juste un péché dans toute votre vie, ça vous privait de la gloire de Dieu, de ses promesses, de la vie éternelle. C'est impossible de pouvoir régler, effacer sur notre âme cette tâche-là par notre péché. Ça, c'est si on en a juste un, ça nous empêche d'entrer. Si on en a 1000, on est encore pire, on est sûr de ne pas rentrer. Puis là, il fallait que Dieu règle ce problème-là, puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis les conséquences sont graves pour le péché, parce qu'il est impossible pour l'homme, mais on va le voir dans le prochain verset, qu'est-ce qu'un homme peut faire pour son salut? Avez-vous déjà réfléchi à ça? Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour être sauvé? Non, mais mettons que tu connais pas le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme peut faire? Qu'est-ce que les hommes font pour essayer de se laver de leurs péchés?
Ils essayent de faire des bonnes actions.
Ils essayent. Mais est-ce que c'est valable devant Dieu de faire des bonnes actions puis compenser? Jésus est en train de parler avec ses disciples, puis il venait d'entendre quelque chose qui les avait frappés. Puis là, les disciples, ils ont dit à Jésus: et qui peut être sauvé? Ça, on voit ça dans Marc, le chapitre 10, le verset 26 et 27. Les disciples, ils ont dit: et qui peut être sauvé? Jésus, il a été franc. Il dit, Jésus les regarda et dit: cela est impossible aux hommes. Les disciples se demandent: ben, c'est qui peut être sauvé? Jésus dit: c'est impossible aux hommes. Les hommes ne peuvent pas se sauver. On est perdu. Il n'y a rien à faire. Mais non à Dieu. C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Jésus mettait les gens sur la piste. Si vous voulez être sauvés, vous n'êtes pas capables. C'est impossible pour nous d'être sauvés. Sauf Dieu, lui, tout est possible. Le seul qui peut nous venir en aide, c'était Dieu. Parce que l'ensemble de l'humanité est en péché. Dans ce verset-là, ça nous démontre que c'est impossible aux humains, aux hommes, de se sauver. Puis même s'ils multiplieraient leur religion, puis ils se mettent leurs croyances dans des totems, puis faire des rituels de purification, il n'y a rien qui peut purifier l'homme de ses péchés, peu importe la religion. Même la religion juive a été incapable de purifier totalement les gens. Il purifie les gens selon la chair, mais pas selon la conscience pour donner l'accès dans la vie éternelle. Il fallait absolument que Dieu nous vienne en aide. Il n'y a pas un humain sur la terre qui pouvait se sauver et sauver les autres. Il n'y a aucun descendant d'Adam et Ève qui ne le pouvait. C'est ce que Jésus a déclaré. Peu importe quel était ce prophète. Parce qu'il y en a des gens qui prophétisent et qui ont fondé des religions. Puis ils disent que si vous pratiquez ça, vous allez être sauvés. Mais Jésus a dit que l'ensemble des humains est sous la condamnation de leurs péchés. Il fallait que Dieu vienne lui-même. C'est impossible aux hommes de sauver. Il fallait que Dieu descende du ciel puis que Dieu vienne régler cette question-là. Pour obtenir une victoire complète, il a fallu que Dieu descende. C'est pour ça qu'on va voir qu'est-ce qui est Jésus vraiment. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? On voit là qu'il fallait que Dieu vienne régler deux affaires pour nous sauver. La première, il fallait qu'il débarque celui qui régnait sur la terre. C'est qui régnait sur la terre? L'ennemi, le diable. Parce que quand Adam et Ève ont obéi à Satan, il est devenu le boss. Satan est devenu le boss de l'ensemble de l'humanité. C'est ce que ça nous dit aussi dans les épîtres de Jean. Il dit le monde entier sous la puissance du malin. Il fallait que Dieu vienne pour débarquer Satan puis toute sa hiérarchie de démons qui est au pouvoir de cette planète. Puis il fallait aussi qu'il règle une autre affaire, régler la dette de nos péchés. Pourquoi qu'il faut dire ça? Parce que Dieu, dans sa justice, il ne peut pas rester le péché impuni. Faut que la punition soit payée. Nous sommes des pécheurs, nous sommes désobéissants, rebelles, on pratique des choses que Dieu n'aime pas, puis par défaut, on méritait tous de payer pour nos péchés. Il fallait que Dieu règle ces deux choses-là, débarquer le diable, puis il fallait qu'il paye la dette des péchés. Payer ces souffrances-là qui devaient être payées. Puis on voit dans l'histoire, dans les versets de la parole de Dieu, que Dieu avait prévu que ça se passerait comme ça. Dans la parole de Dieu, il y a un verset qui nous dit que Dieu avait vu d'avance que l'humanité tombera dans le péché, tombera dans la désobéissance. Puis il avait déjà prévu, avant la fondation du monde, de réunir tout le monde par le Christ. On voit ça dans Éphésiens, le chapitre 1, le verset 9. 9 et 10. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu avait fait un bienveillant dessein. Un dessein, un plan bienveillant, de bonté, d'amour envers ses créatures. Il avait fait un plan pour régler le problème. Il dit au verset 10, il voulait mettre son plan en exécution quand les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Dieu avait prévu que l'ensemble de l'humanité serait séparé d'avec lui, puis il avait prévu qu'il était pour régler la dette des péchés de l'humanité, puis de rassembler le monde sous le Seigneur Jésus-Christ, par le Seigneur Jésus-Christ. Autant les choses sont dans le ciel que les choses sur la terre. Dieu avait prévu d'avance, avant la création, qu'il était pour régler la dette. Puis le Seigneur l'a annoncé d'avance que c'était pour s'accomplir sur cette terre. Depuis le début de la création, Dieu y annonce qu'il est pour faire une œuvre pour nous racheter. La première place qu'on voit dans la parole de Dieu, que Dieu parle qu'il était pour intervenir, pour faire quelque chose, pour dégommer le diable. Y a-t-il quelqu'un qui sait à quel endroit que c'est écrit dans la parole de Dieu que Dieu a promis de régler le problème du diable? On voit ça dans Genèse 3, le verset 15. Dieu l'a dit tout de suite à Adam et Ève. Il a parlé, parce que le diable était là, Adam et Ève étaient là, puis Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, il parlait au serpent, entre ta postérité puis sa postérité, il dit, celle-ci t'écrasera la tête, puis tu lui blesseras le talon. Depuis le début de la création, Dieu a annoncé qu'il naîtra quelqu'un de la descendance de la femme qui écraserait la tête du serpent. C'est qui était pour être cet envoyé-là pour écraser la tête du serpent?
Jésus.
C'est Jésus! Il a annoncé aussi, dans une autre prophétie, pour ceux qui le savent, quand Abraham, Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice, puis Abraham, il a pas résisté contre Dieu, il était pour le faire, puis il avait rien à offrir à Dieu, puis Dieu a dit, tu vas m'offrir ton fils. Ça faisait 99 ans. Ben, Abraham avait 99 ans quand il a eu son fils, puis c'était peut-être 10-15 ans plus tard qu'il avait attendu son fils toute sa vie, qui était le fils de la promesse, puis là, Dieu dit, offre-moi là en sacrifice. Abraham, il est parti, puis il est allé pour aller sur la montagne. On voit ça dans Genèse 22, versets 7 et 8. Puis là, ça nous dit, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, pendant qu'il était en chemin, il dit, mon père, puis il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Son fils lui demandait, où est-ce qu'il est l'agneau? Bonne question. Puis là, il y a un message prophétique qui était répondu par Abraham. Il dit, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Ça, là, c'était comme Dieu est en train de montrer. C'est sûr que c'est caché pour l'ensemble de l'humanité, c'est caché. Mais pour ceux qui sont à l'écoute de la parole de Dieu, Dieu a montré là-dedans qu'il était pour pourvoir lui-même à l'agneau pour le sacrifice. On voit un peu plus loin d'autres prophéties qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament pour annoncer que le Messie était pour payer pour la dette des péchés. Si vous avez le temps chez vous, allez lire Isaïe au chapitre 52, le verset 13, jusqu'au chapitre 53, le verset 12. Il y a à peu près une quinzaine de versets, puis ça nous parle vraiment, c'est clair à 100% que ça parle de Jésus et de ses souffrances. Je vais vous lire juste une partie de ce texte-là, dans Isaïe 53, les versets 4 et 5. Ça, c'était annoncé peut-être 500-600 ans avant Jésus-Christ. Ça a annoncé ce que Jésus était pour faire quand il est venu sur la terre. Ça nous parlait de Jésus, ça dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, puis c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Dans ce passage-là, moi, j'en reviens pas comment ce passage-là, il est clair pour nous démontrer les souffrances du Christ. Bien avant que ça arrive, que Dieu ait annoncé que son serviteur, si tu regardes un petit peu avant, ça parle de son serviteur, puis qu'il viendrait pour pouvoir payer, puis prendre le châtiment de tous sur ses épaules, puis de le subir à notre place. Dans ce passage-là, on voit que Jésus, ou le serviteur, que ça nous parle dans ce texte-là, au verset 4, ça dit, il va porter nos souffrances, il va charger de nos douleurs, puis il a été puni, frappé de Dieu, puis humilié. Jésus n'a pas souffert juste à la croix. Ça nous dit dans un autre passage, dans ce texte-là, c'est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a passé sa vie à souffrir. Puis le monde le regardait puis il dit, il avait l'air d'un gars qui est châtié par Dieu. Mais en réalité, il méritait pas le châtiment, il était sans péché, mais il portait sur lui le châtiment de tout le monde. C'est comme si Dieu, au lieu de nous punir pour nos péchés, il frappait Jésus tout le long de sa vie. Parce que Jésus avait accepté de prendre sur lui les péchés de l'humanité. puis de prendre le châtiment qui nous donne la paix. Si on peut recevoir la paix aujourd'hui, si on peut vivre dans la paix de Dieu aujourd'hui, c'est à cause que Jésus a pris sur lui le châtiment qu'on méritait. Il a payé pour mes péchés. Il s'est chargé de mes maladies, de mes souffrances. Dans ce passage-là, ça parle de souffrance et de douleur, mais ça veut dire maladie dans ce mot-là. Il a été blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités. Puis il y a châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui. Puis c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par les meurtrissures de Jésus qu'on peut être sauvé. Hey, c'est quelque chose. Il y a un autre passage qui nous parle, c'est une révélation prophétique dans des psaumes, mais il en reparle de ces versets-là dans Hébreux au chapitre 10, le verset 5. Ça nous annonce dans ce passage-là ce que Jésus a dit à son Père avant de descendre puis venir en forme humaine. Parce que Jésus, on va le voir dans d'autres passages, il était là auprès du Père, puis quand il a dialogué avec son Père à propos de ce qu'il était pour aller faire sur la terre, puis il nous parle dans ces passages-là de cette discussion-là qu'il y a eu, puis comment est-ce que Jésus s'est porté volontaire d'aller puis aller payer la dette des péchés de l'humanité. On voit ça dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Ça nous dit, c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, ça c'est quand il était pour entrer dans le monde, à venir à naître, il a dit, il parlait à son Père, là, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Ça c'est ce qui est offert selon la loi de l'Ancien Testament. Alors j'ai dit, c'est Jésus qui parle, alors j'ai dit, voici je viens. Puis dans le rouleau du livre qui était écrit, cette prophétie-là, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Là on voit que Jésus se portait volontaire, il savait que Dieu le Père avait agréé aucun des sacrifices de l'ancienne alliance pour pardonner les péchés. Puis il a dit, à cause que tu n'as pas agréé ces choses-là, il dit, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Puis là, il nous explique au verset 8, qu'il a d'abord dit que Dieu n'a pas agréé les holocaustes, les sacrifices, ni les offrandes pour le péché, selon ce qu'on offre, selon la loi. Puis ensuite, il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli la première alliance pour en établir une seconde. C'est en vertu de cette volonté, la volonté de Jésus de vouloir venir puis régler le problème du péché, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Dans ce passage-là, ce qui est important de comprendre, c'est à cause que Jésus a eu la volonté de venir régler, de détrôner le diable et de venir payer pour la dette de nos péchés. À cause que Jésus a voulu qu'on a pu être sauvé, parce que les premiers sacrifices offerts par la loi ne pouvaient nous sauver. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, par son sacrifice, nous pouvons être sanctifiés. Ça veut dire être déclaré saint, de pouvoir être déclaré pur, d'être déclaré valable pour entrer dans la vie éternelle. Par son sacrifice. Comme je vous ai dit tantôt, c'est impossible aux hommes de sauver. Il fallait que le secours vienne d'ailleurs. C'est pour ça qu'il dit, c'est impossible aux hommes d'être sauvés, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Il fallait que Dieu vienne régler la dette de nos péchés. La parole de Dieu nous enseigne que le Messie qui est venu est le Dieu créateur de toutes choses. Il nous dit qu'il y a un Dieu qui peut venir en aide. Puis dans ce verset-là qu'on va voir, dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 3, ça nous enseigne que Jésus est le Dieu créateur de toutes choses. Il fallait que ça soit lui qui vienne pour régler la dette des péchés. Allez lire ce passage-là, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ça nous dit, « Au commencement était la parole. » La parole était avec Dieu, puis la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, puis rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est qui ça, la parole?
Jésus.
On le voit au verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. C'est Jésus. Fait que si on relit ce passage-là, au commencement était Jésus, et Jésus était avec Dieu, et Jésus était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jésus était le créateur de toutes choses. Puis quand il a dit à son père, « Voici, t'as pas agréé les holocaustes, les sacrifices. » Il dit, « Je viens, ô Dieu, fais ta volonté. » Là, le père a introduit le fils dans le monde pour venir régler la dette du péché. Il fallait qu'il vienne d'ailleurs. Il fallait que Dieu lui-même règle cette dette-là. Le Messie était Dieu, puis il a accepté de venir, puis de se rendre obéissant, sans péché. Parce que s'il n'aurait fait un péché lui-même, il n'aurait pas pu prendre la dette des autres. Fait qu'il fallait que le Messie vienne, puis qu'il vive une vie complète sans péché, et qu'il souffre pour nos péchés. Qu'il prenne sur lui aussi nos souffrances. Fait qu'il y avait une mission en double. De vivre une vie sans péché, puis de prendre sur lui le châtiment de Dieu qui nous donne de vivre dans la paix, puis d'être sauvé. On voit ça dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 6. Le 6 à 8. Ça nous parle dans ce verset-là que Jésus y existait en forme de Dieu. Ça nous dit, Jésus, parce que là, il faudra aller le verset avant, mais ça nous parle lequel existant en forme de Dieu. C'est Jésus qui existait en forme de Dieu. Quand il était sur la terre, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, puis il a pris une forme de serviteur. Il est devenu comme un semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme, puis il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus, il existait en forme de Dieu, il a accepté de venir comme un simple homme, puis il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'il n'a jamais désobéi. À partir du moment de sa naissance jusqu'à sa mort, il a été obéissant jusqu'à sa mort. Il fallait qu'il vive une vie sans péché. Un homme normal n'aurait pas été capable. C'est pour ça que ça prenait Dieu. Tout est possible à Dieu. Ça prenait Dieu qui vienne le faire, le salut. C'est pour ça que dans ce passage-là, ça nous dit qu'il existait en forme de Dieu. Puis quand il était sur la terre, il n'a pas cherché encore être égal avec Dieu. Il est devenu comme un simple homme, puis il s'est rendu obéissant, puis il était jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, qui est une mort humiliante, souffrante, puis il a accepté de y aller pour payer pour la dette des péchés. Un autre passage dans Jean 8, 42, Jésus est en train de dire comment est-ce qu'il est Dieu. Jésus leur répondit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Puis je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Il dit dans ce passage-là, « C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. » Fait que sa mission, c'était, il a été envoyé par le Père, puis Jésus, on l'a vu dans l'autre passage, il a accepté de venir pour venir payer pour la dette de nos péchés. Il est mort sur la croix, il a été obéissant toute sa vie, puis il est mort sur la croix, puis il a pu racheter l'ensemble de l'humanité. Son œuvre, c'était une œuvre de renoncement, d'accepter de souffrir. Je ne sais pas combien d'entre nous qu'on serait prête à aller jusqu'à là, de mourir pour quelqu'un. C'est pas facile, oui, parce qu'il y en a des gens qui ont donné leur vie pour d'autres. Tu vois ça dans les histoires, surtout des histoires de guerre, où il y a quelqu'un qui est un soldat, puis qui s'en va, puis il fait quelque chose, qui sacrifie. Mettons qu'il y a une grenade qui vient pour exploser, il jette sur la grenade pour que lui seul meure, puis là, il absorbe l'impact de la grenade pour pas que les autres autour se fasse tuer ou se fasse blesser. Mais des gens comme ça, c'est des héros. C'est des personnages. Il y en a eu dans l'histoire des gens qui étaient prêts à donner leur vie pour les autres. Mais Jésus était comme ça. Il a accepté, avant même de venir au monde, il savait qu'il était pour aller payer la mort la plus atroce, la plus souffrante, puis subir les jugements puis du diable, puis la honte que les gens ont faite en lui crachant dans la face, en lui arrachant la barbe. On voit d'autres passages qui en parlent, son visage était défiguré, que ça nous dit tellement qu'il avait mangé une volée. Ça, c'est le mot qu'on a au Québec pour dire quand tu manges une volée, tu manges une volée, mais il l'a mangé, il était fouetté, battu de coups de bâton, couronne d'épines, humilié, craché dans la face, puis ils l'ont cloué à la croix, puis il était le Dieu créateur de toutes choses. Puis il a accepté d'aller à cette position-là pour une seule raison, parce qu'il voulait donner l'occasion à d'autres personnes de pouvoir s'approcher de Dieu, puis de pouvoir avoir la vie éternelle. Jésus nous aimait tellement qu'il a donné sa vie pour nous, qui est mort pour nous donner accès à rentrer dans la vie éternelle. Quand le Christ est mort sur la croix, ça a été une victoire complète. Le diable ne le savait pas, parce que le diable a tout fait pour tuer Jésus, pour que le monde amène le diable avait inspiré à Judas de vendre Jésus pour que Jésus soit livré, pour qu'il se fasse tuer. Le diable pensait qu'en tuant Jésus, qui venait de l'éliminer, que Jésus pourrait plus influencer les autres autour. Il connaissait pas le plan de Dieu, mais le diable, en mettant à sa mort un innocent, il venait de se condamner lui-même. Parce que Jésus était sans péché, puis Jésus devait pas mourir. C'était le seul qui était sans péché. Il aurait pu s'en aller, là, puis s'en retourner avec son père, puis vivre avec lui pour l'éternité, puis nous autres, on aurait été perdus. Mais Jésus, en mourant sur la croix, le diable a donné l'occasion à Jésus de remporter une victoire complète sur le diable, puis sur le péché. On voit ça dans Colossiens, chapitre 2, le verset 13 à 15. Ça nous dit, vous qui étiez morts, en parlant de nous, par nos offenses, par l'incirconcision de notre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est un cadeau qu'on a de pouvoir être pardonné. Jésus, là, le verset 14, c'est le verset que je veux peser. Quand il est mort sur la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est quoi ça, cet acte-là? C'est l'acte notarié. Un acte notarié, ça veut dire chaque fois qu'on a fait des péchés, la liste de nos péchés, elle augmentait, puis on devait mourir à cause de nos péchés. Cet acte-là, Jésus l'a pris, Jésus l'a payé, il l'a effacé, cet acte-là. Il a effacé tous nos péchés. En venant à Jésus-Christ, notre liste est rendue complètement effacée. Une personne, même ça serait le pire criminel sur la terre, à partir du moment qu'il accepte Jésus-Christ comme son sauveur, sa liste de péchés, c'est marqué « payé par Jésus ». Il efface l'acte. Mais c'est pas juste ça qu'il a fait. C'est un acte qui subsistait contre nous, puis il l'a détruit en la clouant à la croix. Puis le verset 15, une autre victoire qu'il a faite, il a dépouillé les dominations puis les autorités, puis il les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Qui sont ces dominations et ces autorités? Mais c'est le diable. Jésus, en mourant sur la croix, il a dépouillé le diable puis toutes ces ordres démoniaques qui gardaient un contrôle sur l'humanité à cause du péché. Mais là, Jésus, en mourant sur la croix, il enlève le péché de ceux qui viennent à lui, puis il a détrôné le diable, puis le diable a été vaincu à la croix. Comment? Mais comme je disais tantôt, Satan a fait tuer Jésus, donc Satan, il venait de faire un acte injuste. Jésus n'avait fait aucun péché, fait que le diable a été débarqué. Il a perdu son contrôle en tuant Jésus. À cause de sa mort que Jésus a acceptée, il a réglé la dette de nos péchés, puis il a détrôné le diable. Il est encore libre de se promener, le diable. Il agit encore dans ce monde, mais il est limité dans ses actions jusqu'au moment où ce que Jésus-Christ va revenir. La Bible nous parle qu'un retour, il va revenir puis il va prendre le contrôle de la planète. En attendant, il a comme l'accès d'agir encore, il a une liberté d'agir encore, puis on a à combattre ses tentations, ses attaques, on a à résister contre parce qu'il veut essayer de nous décourager puis nous faire abandonner la foi en Jésus, puis il faut pas, il faut persévérer jusqu'à la fin, puis on va le voir un peu plus loin dans d'autres études. Mais le diable, dites-vous que le diable y est vaincu. La victoire a été remportée, il n'y a pas de pouvoir sur vous. Il y a le seul pouvoir sur vous que le pouvoir que vous allez lui laisser de prendre sur votre vie. Parce que Jésus a tout accompli pour qu'il soit vaincu, il n'y a plus d'autorité, puis il ne peut plus utiliser le péché pour nous garder captifs, parce que Jésus a réglé aussi la dette du péché. À la minute qu'un chrétien, s'il fait une faute, il demande pardon à Dieu, Dieu lui pardonne ses péchés, fait que le diable n'a pas rien pour s'accrocher. Jésus est mort sur la croix, il a accepté d'y aller, mais il n'est pas resté sur la croix. On parle souvent de la croix comme si c'est une chose importante. Oui, c'est vrai que la croix est importante. Jésus, fallait qu'il passe là. Il a passé les trois plus pires heures de sa vie, c'est sur la croix. La Bible nous dit que Jésus est en communion, il est à qu'un avec le Père, puis il était avec son Père, puis quand il était sur la croix, les péchés de l'humanité sont venus sur lui. Jésus a lâché un cri, il a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est comme si Dieu, le Père, s'est détourné les yeux de son Fils pendant le moment où il portait les péchés de l'humanité sur ses épaules. Jésus a accepté pour la première fois, pour nous, il a accepté d'être séparé de la communion qu'il avait, une communion éternelle avec son Père. Il s'est senti abandonné de son Père, puis il a vécu comme cette séparation d'avec son Père. C'est un moment terrible pour lui, parce que c'est de toute éternité, il était en communion avec son Père. Pendant ce moment-là, il a accepté de devenir séparé d'avec son Père pour prendre notre séparation qu'on avait avec le Père. À cause de nos péchés, on était privés de la gloire de Dieu. Nos crimes, nos fautes nous séparaient de Dieu. Il fallait qu'il prenne aussi cette séparation, puis il l'a accepté, puis pendant un temps, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais il était séparé, puis il a goûté la mort physique. Lui était le seul innocent qui devait pas payer de la mort physique parce qu'il était sans péché. Il a accepté cette mort. Puis là, il a été jeté dans l'Hadès, ce qu'on appelle le séjour des morts. La Bible, elle nous dit qu'il est allé porter la bonne nouvelle dans le séjour des morts. Tous ceux qui attendaient la venue du Messie, mais Jésus est allé annoncer la bonne nouvelle. On voit ça dans d'autres passages, mais je ne suis pas là-dessus, je veux vous parler aujourd'hui. Puis la mort n'a pas pu garder Jésus. C'est ça qui est l'autre bonne nouvelle. Jésus a payé. Mais c'est pas la seule bonne nouvelle. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Le troisième jour, il l'a annoncé à ses disciples qu'il fallait qu'il meure, qu'il soit mis à mort par les sacrificateurs, les scribes, mais qu'il ressuscite le troisième jour. Puis conformément à sa parole, Jésus est ressuscité le troisième jour. Ça nous dit dans Acte 1, 3, que le Messie n'a pas été gardé captif par la mort, il est ressuscité. Ça nous dit dans Acte 1, 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Jésus a apparu à ses disciples. Il y a d'autres passages qui en parlent. Il en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, il leur parlait des choses qui concernent le royaume des cieux. Jésus est ressuscité pendant 40 jours après sa mort, puis il a donné plusieurs preuves qu'il était là. Il est apparu de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Des fois, il était juste avec ses forces, des fois, il était avec les 12. Des fois, ça dit dans un autre verset, qu'il était avec plus de 500 personnes en même temps. Puis ça nous dit aussi qu'il est apparu à l'apôtre Paul par après. Fait que Jésus a donné des preuves qu'il était ressuscité. La mort ne pouvait pas le garder captif dans la mort. Pourquoi? Parce qu'il était juste, il était sans péché. Fait que Dieu le Père est allé le sortir de là, puis il l'a ressuscité, puis il s'est montré à ses disciples, puis il leur a dit, « Je suis vivant au siècle des siècles. » Puis il dit, « Tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. » Jésus, il dit, « Je suis avec vous. » Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fait que la Bible elle nous dit qu'il est rendu omniprésent, omnipotent, il est tout puissant, puis omniscient. Il y a d'autres versets là-dessus qu'un jour on va les regarder pour nous faire comprendre que avant de venir sur la terre, Jésus était Dieu. Il était avec Dieu puis il était Dieu. Il est venu par un bout de temps comme un simple homme, mais après sa mort, il a réobtenu la gloire qu'il avait auprès de son Père, puis il a réobtenu la toute omniprésence, la toute puissance, parce qu'il a tout pouvoir, puis il est éternel, tous les attributs de Dieu. C'est vraiment extraordinaire, merci Seigneur d'être venu. Le Christ, il est venu du ciel, il est mort, il est ressuscité, puis il est retourné dans le ciel avec son sang pour nous obtenir un rachat éternel. Quand que Dieu, dans l'Ancien Testament, il a enseigné aux Juifs qu'il fallait que quand tu commets un péché, tu prenais un agneau, tu l'offres en sacrifice, puis l'agneau était vivant, là, tu y mettais ta main sur la tête, fallait que tu tiennes le couteau, puis tu y plantes le couteau, puis tu l'égorges vivant pour que son sang coule vivant. L'agneau, puis là, tu sentais l'agneau shaker. Quand, je sais pas si vous avez déjà vu un animal en train de mourir, puis quand il arrive, son sang sort, là, puis là, il shake, là, puis là, t'étais là, puis tu sens la souffrance de l'agneau pendant tout le temps du sac qui est en train de mourir. Puis c'est quand il râle, là, il est en train de mourir, toute cette agonie-là, Dieu voulait montrer aux gens la souffrance de l'autre pour ton péché. L'agneau souffrait pour prendre à ta place la mort à cause de ton péché. Fait que là, tu sentais complètement le feeling de la mort. Il y en a qui ont assisté à la mort de leurs parents ou d'un proche, c'est pas facile. Pis s'il souffre, puis en plus il y a une maladie de poumon ou une maladie d'autre chose, puis là il cherche son air, puis là c'est terrible. Mais quand toi-même tu mets à mort un animal en lui plantant le couteau pour l'égorger, puis tu sentends tuer le sang qui a coulé, il fallait que le sang coule pour payer pour le péché. Ça nous disait dans l'Ancien Testament, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu voulait déjà démontrer que ça prenait un agneau pour qu'il verse son sang pour que tu sois pardonné. Puis, comme le message prophétique que je vous ai dit tantôt à propos d'Abraham, Dieu se chargera lui-même de l'agneau. C'est ce qu'il a fait. Il a envoyé son fils comme étant l'agneau de Dieu qui est venu, qui a accepté d'être égorgé, puis d'être battu, puis de saigner pour mourir, pour qu'on puisse être sauvé. Ça nous dit dans le prochain verset qu'on va aller lire, dans Hébreux 9, le verset 11, Jésus a pris son sang, puis est allé le porter dans le ciel, sur le trône de Dieu. C'est ça que le sacrificateur devait faire, prendre le sang de l'animal, puis d'aller le porter sur l'autel pour offrir le pardon. Mais Jésus l'a fait, il a pris son sang et est allé le porter dans le ciel. C'est le sang de la nouvelle alliance qui ôte les péchés de l'humanité. On voit ça dans Hébreux chapitre 9, le verset 11 et 12. Ça nous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Ça, c'est le ciel. Il a traversé le tabernacle, c'est l'habitation plus grande et plus parfaite qui n'est pas construite de la main d'homme, c'est-à-dire il n'est pas de cette création. Il a traversé ça, lui, de ciel. Il est venu, puis il est venu accomplir ce qu'il avait à faire, puis il est retourné dans la présence de Dieu dans le ciel. Il est, au verset 12, ça dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Puis il a obtenu une rédemption éternelle. À cause que Jésus a pris son sang, puis qu'il a traversé les cieux pour aller porter son sang dans le ciel, il venait de présenter à Dieu son Père le sang qui assurait une rédemption, un rachat, le pardon des péchés à tous ceux qui voudraient croire en lui. Jésus a accompli le sacrifice ultime de sa propre vie pour qu'on puisse être sauvés. N'est-ce pas extraordinaire? Puis là, la Bible, elle nous enseigne clairement, on voit ça dans Jean 14, le verset 6, que juste le Messie, Jésus-Christ, qui est le seul chemin pour être sauvé. C'est la seule bouée de sauvetage que Dieu a envoyée à l'humanité. Il est mort, c'est lui seul, c'est Dieu lui-même qui est venu sur la terre pour payer pour la dette des péchés. Il n'y a pas d'autre manière à suivre pour aller au Père. Si on veut y aller au ciel, là, il y a juste un seul chemin. Dans Jean 14, 6, Jésus lui dit, c'est Jésus qui parle, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Fait que si on veut aller au Père, on n'a pas le choix, il faut passer par Jésus. Jésus est la porte pour entrer, puis il est aussi le chemin. Il y a plusieurs passages qui en parlent. Dans Actes 4, 12, ça nous parle d'un autre verset semblable. Ça nous dit qu'il y a juste le nom de Jésus qui peut nous sauver. Le nom de Yeshua, son vrai nom, c'est Yeshua, traduit par Jésus en français. Ça nous dit, il y a de salut en aucun autre, il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Yamashia, le Messie, le Oint, le Sauveur, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre. Cherchez pas une religion. Les hommes, ils essayent d'en faire des religions pour démontrer qu'il y a d'autres manières pour être pardonné. Parce que le monde, ils essayent d'en vouloir. Ils veulent rentrer au ciel. C'est rare une personne qui se dit, moi, je veux pas y aller au ciel, je veux aller en enfer. On l'entend, celle-là, des fois. Mais c'est parce qu'ils comprennent pas ce qu'ils disent, parce que s'ils verraient vraiment c'est quoi l'enfer, c'est quoi le lac de feu, jamais personne voudrait y aller. Puis le ciel, si tout le monde, si le monde verrait c'est quoi le ciel dans la présence de Dieu, j'en ai donné une petite description l'autre jour, la ville sainte, puis un royaume de lumière, où ce que la gloire de Dieu allait, puis les murs sont en cristal transparent, les rues pavées d'or, puis toute la beauté, l'éclat, puis le monde qui va être là, là, ça va être plus de maladie, plus de souffrance, plus de mort, c'est une vie éternelle, sans fin, dans la présence de Dieu, dans le bonheur, dans l'amour, dans la gloire, plus de maladie, plus rien, ça va être extraordinaire. Tout le monde veut y aller, mais c'est quel chemin qu'il faut suivre? Le premier verset, je vous ai dit, et qui peut être sauvé? Ils ont posé la question à Jésus. Jésus a dit, c'est impossible aux hommes. Qui peut être sauvé? C'est impossible aux hommes d'être sauvés. Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Le seul qui pouvait intervenir dans notre vie pour nous sauver, c'est Dieu lui-même. Il l'a-tu fait? Oui, il l'a fait. Il est venu en la forme de Jésus-Christ comme un simple homme. Pendant un temps, il était abaissé en dessous des anges. Il n'avait pas sa toute-puissance. Il n'était pas dans son omniprésence. Il était comme un simple homme. Il a accepté de venir comme un simple homme. Mais c'est bien clair que Jésus venait d'en haut. Il est venu en forme humaine pour un temps, pour accomplir, parce qu'il y avait un Dieu qui pouvait faire quelque chose pour sauver l'humanité. Puis il l'a fait. Puis maintenant, en ressuscitant, il avait vaincu la mort, il avait vaincu le diable, il avait purifié, payé pour le châtiment que les péchés, tout ce que ça pouvait avoir comme conséquence, puis il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Puis maintenant, la Bible nous annonce que vous pouvez être sauvés gratuitement, puis vous pouvez saisir ce cadeau-là par la foi. Dans Éphésiens 2, le verset 8 et 9, ça nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Une grâce, là, c'est un cadeau. C'est impossible pour nous d'être sauvés. Faut que Dieu te donne le cadeau d'être sauvé. C'est un cadeau qu'il veut te donner. Tu le mérites pas, puis tu pourras jamais le gagner par toi-même, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Puis c'est par le moyen de la foi qu'on le saisit. Ça vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est pas par tes œuvres afin que personne ne se glorifie. Fait qu'essayez pas de gagner le ciel, vous le gagnerez pas le ciel. Mais saisissez le cadeau de Dieu par la foi. C'est un cadeau que Dieu vous fait. Dieu veut vous faire de vous pardonner vos péchés à cause que Jésus-Christ a payé pour toutes, que vous soyez libérés de vos péchés, puis que vous soyez en communion avec Dieu. Ça nous a permis de nous approcher de Dieu. Le dernier verset que je vous lis ce matin, dans Apocalypse 3:20, Jésus nous dit, il se tient à la porte, puis il frappe. Jésus se tient à la porte, puis il frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, puis lui avec moi. T'en veux-tu une preuve que Jésus-Christ est vivant, puis qu'il est là en esprit? Mais laisse-le rentrer dans ta vie. Tu vas en avoir des preuves. Ta vie va changer. Tu vas faire des efforts pour changer. Tu vas faire des efforts avec lui. Il va te montrer, mais tu vas voir que lui va agir dans ta vie, puis il va te la changer, ta vie. Tout ce que tu essaies de te changer par toi-même, tu seras pas capable, mais lui est capable de te changer. Mais avant de te changer, il veut faire une autre chose avant. Il veut te laver de tous tes péchés. Si tu le laisses rentrer dans ta vie, tu vas être déclaré juste par Dieu. Il va te laver de tous tes péchés. Ton âme va être rendue pure devant Dieu. Puis tu vas pouvoir recevoir le cadeau du Saint-Esprit. Il va rentrer dans ta vie. Puis tu vas vivre un contact avec Dieu. Dieu va être dans ta vie. Tu vas sentir sa présence. Tu vas marcher, tu vas être à l'écoute de sa voix. Puis tu vas avoir une relation qui va se vivre avec toi. Puis ça, je vais l'expliquer plus en profondeur la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, j'en savais assez pour l'être sauvé. Si vous voulez recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, résistez pas. Dites pas, oh, je remets ça demain, je remets ça la semaine prochaine. Oh, je suis trop jeune pour donner ma vie au Seigneur. Oh, j'ai bien des choses à faire. Ou j'aime trop le péché pour vouloir aller à Jésus. Oh, j'ai ma carrière devant moi. Ou j'ai ma religion, je crois qu'il y a d'autres choses. Je vous le dis. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut vous sauver. C'est lui qui est le Dieu créateur de toutes choses qui est venu en forme humaine pour vous donner cet accès-là. Acceptez-le aujourd'hui même. Je vais faire une prière pendant qu'on est tous ensemble pour vous donner l'occasion d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Mais je vous la pose quand même la question. Y en a-tu qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur personnel, qui se disent, moi, je veux suivre Jésus. Je veux le suivre, je veux le servir, je veux être pardonné de mes péchés, je veux le Saint-Esprit, je veux que ma vie change. Je suis tanné de vivre dans cette vie-là. Je veux qu'il vienne me conduire, qu'il prenne le contrôle de ma vie, qu'il me dirige. Puis si vous avez ce cœur-là, il va le faire. Il a changé ma vie, il a changé la vie de plusieurs, puis il continue à agir dans le monde, puis il agit dans les gens, il transforme des vies. Il y a des gens qui appellent, la Bible appelle ça naître de nouveau. Mais je vais l'expliquer la semaine prochaine, mais pour aujourd'hui, faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus, il est venu voilà 2000 ans. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je veux le suivre, je veux le servir tous les jours de ma vie. Prends ma vie, je te la donne. Et conduis-moi par ton Saint-Esprit dans la voie de l'éternité. Merci Seigneur. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu. C'est aussi simple que cela. Si vous avez dans votre cœur de la repentance, vous voulez changer de vie, vous voulez être pardonné, recevez-le, faites la prière, puis après ça, marchez en contact avec le Seigneur. Cherchez à vous sanctifier. Servez le Seigneur de tout votre cœur. Allez dans une église pour entendre les messages de la parole de Dieu. Consacrez-vous pour le Seigneur. Persévérez jusqu'à la fin, puis vous allez faire partie de ceux qui vont vivre l'histoire sans fin avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.